Chapitre 86. Vincent se fraye un chemin parmi la foule qui déambule sur les grands boulevards. Après l'univers énigmatique découvert cette nuit, le spectacle de la rue lui apparaît par contraste, quelque peu irréel. Ce jour après la nuit, cette profusion futile après l'essentiel, cette légèreté quotidienne après des secrets séculaires, difficile de trouver sa place lorsque l'on navigue entre les extrêmes. Il détaille les nombreux visages qu'il croise comme s'il défilait dans un rêve. Ce mélange hommes, femmes, enfants, vieillards, de toutes conditions. Leurs traits ne s'animent vraiment que lorsqu'ils sont accompagnés, et ils n'expriment jamais autant que lorsqu'ils échangent. De ces liens naissent les sentiments. Vincent les capte, s'en nourrit, sans parvenir à s'en rassasier, mais cela le rassure. Personne ne le remarque. Les gens regardent rarement autour d'eux. Tout en avançant, il saisit au vol des bribes de dialogue. Un gardien de la paix fait la leçon à un livreur dont le chariot à bras écrasé de rouleaux de tissu encombre la chaussée. La clochette de la porte d'une boutique qui s'ouvre tinte, des rires s'en échappent. À peine audible, les lointaines annonces d'un crieur de journaux se superposent à la voix d'une chanteuse qui bêle. Vincent vérifie régulièrement qu'il n'est pas suivi. À un croisement, il bute sur un camelot qui propose d'astucieux quartiers de cornes taillées pour faciliter l'enfilage des souliers des dames. Plus loin, un jeune homme coupe sa route, le dos courbé sous la charge d'un sac de charbon aussi gros que lui. L'adolescent s'engouffre dans un immeuble alors qu'une femme le menace des pires représailles s'il venait à souiller les sols. L'astuce consiste à avancer sans à-coups pour éviter que la poussière noire ne se disperse à travers la toile grossière. Vincent ignore s'il vient d'assister à la scène ou si un souvenir lui est revenu. Lorsqu'il assurait ce genre de livraison, les concierges le grondaient de la même façon. Où en est-il? Si la date, l'heure et le lieu lui sont connus, tout le reste lui échappe. Qu'est devenu le jeune homme qu'il était? Il regrette l'époque où les énigmes n'étaient que des tours de magie dont ses tuteurs maîtrisaient la mise en scène. Chaque mystère finissait par livrer l'astuce dont ils avaient la clé. C'est sans doute sous leur influence qu'il s'était bâti une vision du monde rationnelle, convaincu que la vie répondait à des règles exigeantes dont le travail et l'intégrité pouvaient toujours triompher. Il a depuis peu découvert que certains sentiments et d'autres genres de mystères peuvent remettre en cause les limites de toute conscience. Il sait désormais que si nos rares certitudes ont tant de prix, c'est uniquement parce que le doute mène nos existences. Au moment de quitter la rue de Châteaudun, Vincent entrevoit brièvement le reflet d'un étrange individu dans une vitrine. Il craint un espion à ses trousses avant de réaliser qu'il s'agit de son propre reflet. Étranger à sa propre image, il ne s'est pas reconnu. La barbe, le chapeau et les vêtements passe-partout dessinent un autre homme. Une évolution dans l'attitude également. Son ventre se noue. L'enseigne représentant Quasimodo se profile déjà au bout de la rue. La file d'attente est encore plus longue aujourd'hui. Elle s'étire devant deux boutiques dont les tenanciers râlent parce que l'attroupement gêne leurs affaires. Vincent vient en grossir le rang. En revenant ici, Cavel espère avoir rendez-vous avec lui-même, avec ce qui échappe à tous les raisonnements, avec ce qui se réveille lorsqu'il est touché par un de ces éclairs qui font battre son cœur. Parce qu'il redoute d'être mort, il vient se ranimer. Il est là pour faire une promesse. Il n'a pas oublié le séisme intime qu'a déclenché sa première visite. Un véritable instant d'éternité. Vincent a eu de nombreuses occasions d'éprouver ces états fugaces, mais si puissants qu'il garde la mémoire de chacun d'entre eux. Il se souvient très bien de l'élan qu'il a soulevé lorsque Bégel lui avait montré le petit immeuble automate de Robert Houdin. L'empreinte de cette vague d'enthousiasme et d'exaltation mêlée est encore vive en lui. Il a été submergé d'une énergie infinie qu'il a élevé au-dessus d'une vie laborieuse et banale, Il ne songeait plus à rien d'autre qu'à la joie de comprendre et de découvrir. Il en a éprouvé d'autres par la suite, plus grands encore, lorsque Robert Houdin lui-même lui fit découvrir ses premiers passages secrets. La magie a encore opéré lorsque le passage de la cave de Flamel leur a livré son secret à lui et au jeune Henri. À bien y réfléchir, les plus beaux de ces instants sont ceux qu'il a vécus avec quelqu'un. Comme ces sentiments rares qui éclairent les visages des badauds lorsqu'ils sont partagés. Pourtant cette nuit même, la découverte de la crypte en compagnie de Charles n'a pas eu sur lui cet effet extraordinaire. C'est en songeant à la façon dont Bégel ou Robert Houdin auraient réagi à sa place qu'il a pris conscience de son propre engourdissement. Vincent n'a pas ressenti ce qu'ils auraient éprouvé. Il a bien sûr été impressionné, fasciné, mais il s'est surtout inquiété, posé des questions et senti responsable du devenir de l'endroit. Cette fois, l'ivresse de la découverte, même aux côtés d'Addinson, ne l'a pas emporté. Se pourrait-il que les épreuves aient fait de lui un être froid, qui ne se réchauffe même plus devant ce que la vie offre de plus fort? C'est pour jeter une encre au plus profond de lui-même qu'il est venu ce matin. Si cette amarre-là venait à rompre, il serait condamné au naufrage. Il pose sa pièce sur le comptoir. L'homme derrière le guichet s'attarde un instant sur son visage, mais ne l'identifie pas. Cavell n'est pas le seul à ne pas se reconnaître. Un gémissement affaibli suivi de vociférations paniquées provoque un murmure au sein de la file d'attente. Arrive enfin son tour. Vincent écarte les tentures et pénètre dans la pénombre du vestibule. Le cérémonial lui est familier. Il prend place sur le tabouret. Le rideau s'ouvre. Le monstre est là. Le malheureux porte la trace de nouvelles blessures. Cavell aperçoit même un pic à feu s'enfoncer dans ses côtes pour l'obliger à grogner de façon convaincante. En articulant pour que le pauvre bougre puisse lire sur ses lèvres, il murmure « Tenez bon, je vais revenir vous chercher. » Il n'est venu que pour faire ce serment. S'il ne le tenait pas, c'est lui qui se révélerait le plus perdu des deux. Il abandonnerait alors la seule étincelle de lui-même qui le rend vivant. Ayant délivré son message, il se laisse tomber de son siège en mimant la terreur, se relève en jurant et s'enfuit.
« Au suivant !»
crie le patron pour qui les affaires marchent. Vincent n'a pas gagné la récompense, mais il a remporté bien plus. Car dans le regard de cet être difforme au bout de la souffrance, il a trouvé quelqu'un qui, d'homme à homme, et sans l'ombre d'un doute, l'a reconnu.